7h50 et un invité exceptionnel ce matin. Il est neuropsychiatre. Personne n'a mieux analysé que lui cette capacité incroyable qu'ont les hommes à revenir à la vie après un traumatisme. Autrement dit, la résilience. Ce concept qu'il a fait connaître partout dans le monde. Il publie chez Odile Jacob un essai passionnant sur le pouvoir des mots et de la littérature, de la création. Le titre, La nuit, j'écrirai des soleils. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Et bienvenue. C'est un bonheur de vous recevoir. Vous lire donne envie de se bagarrer avec la vie, ça donne envie de se rebeller, même de très bon matin. Je vous vois sourire, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser de ce point de vue-là à la littérature, aux écrivains, à la création en général?
Parce qu'on a constaté que parmi les créatifs, il y avait un nombre anormalement élevé d'orphelins. Et on s'est dit quel rapport il peut y avoir entre l'orphelinage et la créativité sous toutes ses formes. Et c'est parce que probablement il n'y a plus une identité n'est plus contrainte. C'est-à-dire que les orphelins, comme disait Jean-Paul Sartre, n'ayant pas eu de père, j'avais toutes les libertés. Donc c'est une nouvelle manière de poser le problème psychologique de qu'est-ce qu'on va faire de soi après un trauma. Ou bien on reste mort, ce qui arrive, ou bien on se remet à vivre. Et qu'est-ce qui nous permet de se remettre à vivre? La littérature. L'écriture est un moyen important pour le retour à la vie.
C'est très impressionnant de voir la liste que vous faites de ces écrivains les plus célèbres du 19e siècle, ces écrivains qui ont subi la perte, la mort, la séparation d'un parent, parfois même des deux, Balzac, Nerval, Hugo, Dumas père, Dumas fils, Benjamin Constant, Stendhal, Maupassant, bref, la liste est longue, elle est très longue. C'est la nuit que j'écrirai des soleils. Le titre est mystérieux, qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est dans le noir qu'on espère la lumière. Quand on est dans la lumière, on l'espère plus, elle est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est gavé, on n'a plus rien à gagner. Mais quand on manque, ou bien on reste dans le manque, ou bien on va chercher quelque chose pour remplir ce manque.
C'est dans la perte, c'est dans la souffrance que naît la création.
Alors c'est dans la souffrance qu'on est contraint à la création, mais ça ne veut pas dire que la création soit contrainte à la souffrance. Mais c'est dans la souffrance...
Heureusement
que... Oui, mais non, mais c'est dans la souffrance que là on a un choix catégorique. Ou bien on reste mort, ou bien on se remet à vivre. Mais quand on est vivant, on peut très bien aimer une littérature, mais cette littérature est beaucoup moins pimentée, elle est beaucoup plus légère. Et puis regardez, imaginez que vous soyez capable de faire disparaître le malheur de la condition humaine.
Oui.
Vous supprimez le cinéma, vous supprimez les romans, vous supprimez l'opéra, vous supprimez la plupart des œuvres d'art.
Les pages de bonheur sont des pages blanches.
Et les pages. Oui, c'est ça, exactement.
C'est comme si dans le malheur, il y avait le bonheur de la création à naître. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous croisez à la fois l'histoire de ces écrivains que vous aimez, que vous avez lus, que vous avez parfois rencontrés, et votre histoire, votre enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, votre arrestation le 10 janvier 1944. Vous aviez 6 ans, arrêté par la Gestapo. Pourquoi mêler cette histoire-là, votre histoire la plus intime, la plus personnelle, avec l'histoire de ceux que vous lisez, de ces écrivains que vous aimez?
Parce que je pense que toute vision du monde est une opinion autobiographique. Le fait d'avoir été persécuté pendant la guerre et d'avoir perdu ma famille m'a rendu sensible à ce genre d'événement. Alors qu'un enfant bien développé sera sensible à un autre type d'événement. Donc moi, ça m'a rendu sensible et dès l'âge de 10 ans, c'était mes premiers jours d'école, puisque pendant la guerre, je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Donc dès mes premiers jours d'école, je me suis dit, il faut que je devienne écrivain. Et j'ai un frère d'âme dans cette aventure, c'est Georges Perec, qui a dit exactement les mêmes mots au même âge, et il est devenu écrivain, moi j'espère.
Vous aussi, vous êtes devenu écrivain, neuropsychiatre évidemment, mais aussi écrivain. Quant à la libération, vous racontiez votre histoire, Boris Cyrulnik, quand vous racontiez votre évasion, les adultes éclataient de rire.
Oui, parce que c'était invraisemblable. C'est-à-dire que pendant la guerre, il fallait que je me taise, sinon je serais mort. Et après la guerre, quand j'étais enfant, je voulais raconter ce qui m'était arrivé. C'était tellement invraisemblable que les gens éclataient de rire. Et il a fallu attendre les années 80-85 pour que le contexte culturel ayant changé me donne la parole.
Et vous, que vous ayez la force aussi d'écrire votre histoire, 40 ans pour raconter votre histoire, et après avoir écrit ce livre, vous n'avez plus vu votre enfance de la même manière. Contrairement à une idée répandue, la littérature, c'est pas une thérapie.
Non, c'est parce que ces gens blessés sont pas des malades mentaux. On peut avoir une fracture de jambe et avoir un mental parfaitement équilibré. Donc c'est des gens qui ont été blessés par la vie, par le malheur, par un accident, la guerre, la précarité sociale. Et ces gens-là, blessés, sont sains. Donc j'emploie jamais le mot guérison, j'emploie jamais le mot thérapeutique. En revanche, j'emploie le mot reconstruction de soi, se remettre à vivre.
Quand vous parlez des écrivains et du processus créatif, on a l'impression que vous parlez des enfants. Tous les enfants se sont inventés des vies. Tous les enfants, finalement, ont fait ce qu'a fait Romain Gary, par exemple.
Alors oui, tous les enfants.
Dans leur tête, ça n'a pas donné des œuvres, ça n'a pas forcément donné des livres. Mais on s'est tous inventé des parents.
Ça n'a pas donné des livres, mais tous les enfants sont des créateurs au moment où leur mère s'absente. Et la mère s'absente inévitablement, et elle doit s'absenter régulièrement, parce que ça invite les enfants à prendre un papier, un crayon, à dessiner un bonhomme, et à imaginer quand maman rentrera, je lui donnerai ce dessin, et ça sera une fête affective. C'est le manque, c'est le départ de la mère qui les impulse à la créativité.
C'est assez incroyable, Boris Cyrulnik, parce que quand on vous connaît, qu'on vous écoute, qu'on vous lit, vous êtes l'image de la sérénité, du calme. Et pourtant, dans les écrivains qu'on rencontre dans votre livre, bon, il y a des rêveurs, évidemment, il y a des menteurs, mais ils le sont tous. Mais il y a surtout des voyous, en tout cas un certain type de voyous fascinant. Et ils vous fascinent, justement, comme le poète François Villon qui a été assassin, voleur, proxénète. Et ça vous plaît, ça?
Oui, les romans.
Cette dimension, cette vie, vous plaît.
Les romans policiers vous plaisent aussi.
J'adore.
Game of Thrones, ça vous plaît.
J'en suis vraiment fan. J'avoue. Je plaide coupable.
Donc, les voyous sont des thèmes littéraires fascinants. Regardez le nombre de livres, de films policiers que j'adore, parce que ça commence par une mort, chercher l'assassin. Hitchcock a fait toute son œuvre là-dessus. C'est passionnant. Donc les voyous littéraires ont toujours eu une séduction parce qu'ils créent des événements. On se sent vivre et puis surtout ils osent transgresser. Alors que nous, comme on est pathologiquement normal, on n'ose pas transgresser. Alors on va au cinéma où on prend un roman policier, on prend François Villon et on voit un transgresseur de génie. Mais François Villon, il a fait faire fort parce que dans Les Coquillards, c'était la bagarre tous les jours.
Et on peut rêver aussi, par exemple, comme moi, d'avoir un dragon ou un loup géant quand on regarde Game of Thrones. Il y a Jean Genet aussi qui est une figure... Il y a Jean Genet que vous avez connu, écrivain formidable, abandonné. Que nous enseigne son enfance?
Alors j'ai pris l'exemple de Jean Genet parce qu'il illustre les théories neurologiques actuelles. On sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, qu'un bébé abandonné, isolé affectivement au cours des premiers mois de sa vie, son cerveau est altéré. On le photographie, on le mesure.
On peut le mesurer.
Mais oui, l'ordinateur. Alors on voit à l'œil nu une atrophie des deux lobes préfrontaux, donc il ne peut pas anticiper. L'ordinateur mesure la diminution, l'atrophie du circuit limbique, de la mémoire et des émotions. Et Jean Genet probablement a été intensément isolé au cours des premiers mois de sa vie. Quand il a été accueilli dans le Morvan par une très gentille famille d'accueil, les greniers n'ont pas pu le réchauffer parce que son cerveau était altéré. Et quand Jean Genet va à l'école, il a peur de tout, il a peur des autres, il a peur des enfants, il se cache derrière les livres et il devient bon élève. C'est la peur des autres qui l'a fait qu'il s'est réfugié dans les livres et qu'il a acquis le talent des mots parce qu'il avait peur des autres. Mais sur le plan affectif, toute sa vie, il a été altéré parce que il avait été beaucoup trop isolé au cours des premiers mois de sa vie.
Au fond, nous avons besoin de mythes, on a besoin de mensonges, et c'est une question intéressante parce que c'est quasiment une question politique. Comment est-ce que vous répondez à ça, Boris Cyrulnik?
Alors, moi, je propose l'idée que le mythe n'est pas un mensonge. C'est-à-dire que le mythe, c'est une loupe sur un tout petit segment de réalité. On voit un morceau de réalité et on l'amplifie jusqu'à la magie. Alors, je pense que le mythe dit la vérité. C'est une vérité mythique. C'est un segment de monde hypertrophié.
À quoi sert la littérature, Boris Cyrulnik? Rapidement, en quelques mots.
avoir des moments de bonheur, enfin. C'est-à-dire qu'on peut rêver, parce que quand le réel est trop difficile, on se réfugie, comme Jean Genet, nous aussi on se réfugie dans les livres ou dans Game of Thrones.
C'est en prison qu'on rêve le mieux de liberté. Merci infiniment Boris Cyrulnik d'avoir été l'invité de France Inter. La nuit, j'écrirai des soleils et publié chez Odile Jacob. Je vous souhaite une bonne journée.